Bonsoir. Insécurité dans la province du Nord Kivu. 59 civils ont été tués par les rebelles ADF en l'espace de 2 semaines dans le territoire de Beni, ce qui porte à 813 le nombre de civils tués par ces rebelles ougandais depuis le lancement des opérations de grande envergure par les FRDC, l'armée de la RDC, le 30 octobre 2019, selon le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO en sigle. Des points de vue variés se sont fait entendre. Certains invitent l'armée à suspendre toute circulation de civils sur l'axe Mbao-Kamango au regard de la multiplicité des attaques des ADF sur ce tronçon, et d'autres encore appellent à l'organisation d'un dialogue avec les ADF pour mettre fin aux tueries des civils dans la région. Au chapitre politique, Martin Fayulu et Théodore Ngoï, deux candidats malheureux à l'élection présidentielle de 2018, accusent le président de la République, Félix Tshisekedi, d'avoir violé la Constitution en nommant 2 juges de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation alors qu'ils exerçaient encore leur mandat. Ils estiment qu'il s'agit là d'une violation intentionnelle de la Constitution qui devrait pousser les 2 chambres du Parlement réunies en congrès d'accuser le président de la République de haute trahison. Pour débattre de tous ces sujets, nous accueillons ce soir Nico Fay Mbikai, journaliste au groupe de presse Le Monde et Top Média, paraissant à Kinshasa. Nico Fay Mbikai, bonsoir.
Bonsoir, estimé.
Mais aussi Joël Kadendanga, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère.
Éditeur du journal Impact News, hebdomadaire paraissant à Kinshasa. Et enfin, Brunel Kachi, journaliste à Yalisa Radio, émettant depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Brunel Kachi, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère, et bonsoir à toutes et à tous.
À tous donc, bienvenue dans votre émission. Nico Fay Mbikai, journaliste au groupe de presse Le Monde et Top Média, paraissant à Kinshasa. Nico Fay, à ce stade de notre émission, quelle actualité non encore évoquée jusqu'ici pensez-vous pouvoir échanger avec nous en avant-goût?
Oui, merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Il y a juste le flambé des prix généralisés sur le marché. On se pose la question, pendant cette période où il y a les impayements presque dans tous les secteurs, mais l'on constate que sur le marché, les prix ne font qu'augmenter. Alors, l'on se pose la question, les agents et fonctionnaires de l'État, et beaucoup, et dans beaucoup de secteurs, les gens ne sont pas payés. Comment faire face à tout cela? Et de deux aussi, il y a le facture de la régie des eaux et de la SNED qui ne font que grimper au moment où le salaire ne sont pas payés. Et que, comment faire face à tout cela? En plus, la population se demande si la situation va-t-elle demeurer ainsi ou bien un jour ça va changer, au moment où, à ce jour, pour ce mandat, il reste 1220 jours pour la fin de ce mandat. La population se pose la question, est-ce les 2 ans qu'on a, presque 2 ans qu'on a eu déjà à passer, quel bilan retenir? Est-ce qu'on doit se contenter des promesses? On doit se contenter des insultes entre les gouvernants ou bien les gouvernants sont là pour donner des solutions aux problèmes auxquels le peuple est confronté? Aujourd'hui, d'après mon humble avis, je me rends compte que les gouvernements, l'État congolais n'attire aucune importance vis-à-vis des besoins, vis-à-vis des problèmes auxquels la population est confrontée.
Merci.
Bientôt, là, on vient de passer la dissertation. On exige à ce que l'élève paye 85 000 francs congolais. Mais l'on se pose la question, pour un parent qui a passé 10 mois sans être payé, pour un parent qui a passé 7 mois sans être payé, comment va-t-il payer, le 85 000 francs congolais?
Merci.
Que l'on demande par les promoteurs et les préfets des écoles.
Merci Nico Fay Mbikai. Joël Kadendanga, éditeur du journal Impact News, hebdomadaire paraissant à Kinshasa. À ce stade, votre commentaire libre.
Non, le commentaire libre, c'est ce congrès qui s'annonce du 21 au 24 dans la ville côtière de Mwanda qui va devoir permettre à l'Union nationale de la presse du Congo de renouveler ses animateurs au niveau national. Vous rappellerez que le mandat est terminé depuis juillet 2018 et que tout ce temps, tout le mandat a été plombé par des conflits créés par des nœuds, des gens qui n'exercent plus la profession, mais qui ont perturbé le mandat et on n'a pas pu organiser ce congrès, d'où notre plaidoyer auprès de la fondation Denise Tshisekedi-Nyakeru, qui a accepté de sponsoriser ce congrès. C'est ainsi que nous en appelons vraiment aux jeunes journalistes de prendre leur destin en main en briguant à tous les postes qui sont au niveau du comité directeur bureau exécutif de l'Union nationale de la presse du Congo, afin de reprendre la gestion de leur propre profession de telle sorte qu'ils s'engagent réellement dans ce qui y est comme gangrène dans la corporation, en mettant hors d'état de nuit tous les moutons noirs, tous les journalistes émérites qui doivent mériter notre considération, notre honneur, et mettre aussi recadrer, donc refaire, mobiliser les moyens, mobiliser les énergies pour la révision du cadre légal de la presse dans notre pays, de telle sorte qu'on exerce réellement la liberté de presse qui est le poumon d'un État véritablement de droit et d'une démocratie qui doit s'asseoir. C'est le premier commentaire que je puis faire tout en saluant
très rapidement Kadé Ndanga, nous avons des sujets à aborder.
Le rachat des actions par M. Bufede au niveau de Kibali Gold, ça veut dire sa firme Barrick Gold Corporation, qui a acheté quelqu'un qui était dans l'aviation civile, qui était dans la banque. Il a trouvé mieux aujourd'hui d'investir dans Barrick Gold Corporation, ce qui devrait interpeller nos autorités.
Merci.
À traiter avec de grands investisseurs, de grandes firmes internationales.
Merci.
Au lieu de continuer à brader nos minerais auprès de commissionnaires.
Merci Joël Kadé Ndanga, Brunel Kachi, journaliste à Yalisa Radio, émettant depuis Kolwezi dans la province du Lualaba, votre avant-goût informationnel.
Voilà, chers confrères, s'agissant de l'actualité en Provence, je ne vais pas m'en passer sur la disparition de notre confrère Carlos Cabella de la radio télévision Kolwezi Elisano, Bibi Corouge pour les Antilles.
Paix à son âme, nous saisissons cette occasion aussi pour témoigner toute notre compassion. Allez-y.
Voilà, merci beaucoup, chers confrères. Il a été mis en terre jeudi dernier, accompagné d'une foule immense constituée de ses collègues journalistes, l'UNPC et quelques députés provinciaux, parmi lesquels les députés Jean-Marie Kassia Chingambou, sa famille biologique, mais différentes structures également sociaux-politiques, tout comme la mutualité des références Bana Kolwezi, qui dirige Fana Moussangoussaï Zanef. Je l'ai connu, moi, Carlos Cabella, alors qu'il était encore chroniqueur en Mbujimayi, porte-parole des BCBG Musica, des Jubin Piana, je crois, dans les années 2006. Ici, à Kolwezi, il avait intégré la rédaction des Yalisano Radio, la chaîne dans laquelle je suis en train de travailler. Il était également présentateur d'émissions culturelles, c'est-à-dire de la musique congolaise, 100% Guasuma par exemple, l'une de ses émissions, et animateur principal de l'animation d'antenne Carrefour des Retrouvailles. Vraiment, je retiens de lui un garçon très talentueux, influent, courtois, toujours prêt à en très prendre. C'est vraiment un pion détail que la presse provinciale a perdu. Sa disparition coïncide avec celle de notre confrère Chimba, directeur provincial de l'ACP dans le Haut-Katanga, qui venait également d'être inhumé toujours jeudi dernier. Et pas plus longtemps, nous avions perdu les confrères Carlo Ngombe, directeur de programme de la radio-télévision Manica. Il y a 10 jours presque passés, nous n'avons qu'à leur souhaiter, en tout cas tous trois, paix à leurs âmes, et que la terre de nos ancêtres leur puisse être douce et légère. C'est au moins l'actualité que j'ai choisi de commenter.
Merci.
Sur le plan local, chers confrères.
Merci Brunel Kachi pour ce moment d'hommage observé à ses valeureux collègues. Comme vous avez dit, que la terre de nos ancêtres leur soit légère. Notre premier thème de ce soir, insécurité au Nord Kivu. 59 civils ont été tués par les rebelles ADF en l'espace de 2 semaines dans le territoire de Beni, ce qui porte à 813 le nombre de civils tués par les rebelles ougandais depuis le lancement des opérations de grande envergure par les FRDC le 30 octobre 2019, selon le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO en sigle. Ce centre, le CEPADO, estime que l'armée de la RDC devrait suspendre toute circulation de civils sur l'axe Mbao-Kamanga. Sango au regard de la multiplicité des attaques des ADF sur ce tronçon. Pour sa part, le coordonnateur du Forum de paix de Beni, une plateforme d'ONG, appelle à l'organisation d'un dialogue avec les ADF pour mettre fin aux tueries des civils dans cette région. Martial Papimukeba.
Selon l'ONG CEPADO, ce bilan des 59 civils tués porte à 813 le nombre de civils tués par les ADF depuis le lancement des opérations de grande envergure par les FARDC le 30 octobre 2019. Cependant, au regard de la multiplicité des attaques des ADF sur l'axe Mbau-Kamango situé dans le triangle dit de la mort, cette organisation estime que l'armée devrait suspendre toute circulation des civils sur ces tronçons, et c'est jusqu'à ce qu'elle rassure que la menace des rebelles ADF est effectivement écartée. Vendredi dernier, des jeeps du convoi du commandant du secteur opérationnel Sokola Ingrand Nord sont tombés dans une embuscade des ADF au point kilométrique D de cette route. Selon des sources sécuritaires, les bilans étaient de 8 militaires FARDC tués, 7 autres blessés, des assaillants tués ainsi qu'une jeep de l'armée incendiée. Le général Peter Chirimwami, qui avait décidé de depuis quelques jours, de s'installer au point kilométrique 5 de la route Mbau-Kamango, non loin du lieu de l'embuscade, n'était pas dans ses convois. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Merci Nico Fay Mbikai, journaliste au groupe de presse Le Monde et Top Média, paraissant à Kinshasa. On constate que les opérations des commandos, les opérations anti-groupes armés en République démocratique du Congo ont beau se multiplier, mais l'insécurité est loin, loin, très loin encore d'être vaincue en RDC. Pourquoi cela?
Oui, oui. Vous savez que non, sur les questions de cet ordre-là, il ne faut pas être complaisant. Ici, nous devons doigter l'état du Congo. Est-ce la question que nous devons nous tout le temps nous poser, essayer de savoir, est-ce qu'au Congo, y a-t-il encore l'État? Moi, je suis déjà arrivé à la conclusion selon laquelle il n'y a pas l'État au Congo, nous sommes dans un État non-État. Jusqu'où, jusqu'à quand les peuples congolais doivent être tués sur leur territoire? Quel mal les Congolais ont-ils fait?
Nico Faimbigay, c'est bien beau de se poser toutes ces questions, mais si vous identifiez que le problème c'est l'État, pouvez-vous être un peu plus clair quand vous dites que c'est la faute de l'État, c'est quoi exactement? Parce qu'il faut qu'on avance.
Écoutez,
les régimes se succèdent. Joseph Kabila et son régime ont fait 18 ans. Félix Tshisekedi vient déjà approche la deuxième année de son mandat. Tous se sont investis pour essayer d'arrêter ce phénomène, mais rien ne change. Quand vous dites que c'est l'État, de quoi s'agit-il exactement? Quel est le problème?
Non, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. L'État est là pour sécuriser les personnes et leurs biens. L'État doit sécuriser ses frontières. Comment voulez-vous que les frontières du Congo sont poreuses jusqu'à ce niveau? Si l'État ne sait pas sécuriser sa population, qui d'autre encore? Qui peut encore sécuriser la population congolaise? L'État est doté des instruments de dissuasion qui sont la police, l'armée et les cas échéants, les services de renseignement. Mais jusqu'où les Congolais vont être tués sur leur territoire? Si vous ne voulez pas qu'on incombe la responsabilité à l'État, qu'on incombe cela à qui? Qui doit sécuriser les personnes et leurs biens? Nous nous posons la question. Moi, j'ai toujours proposé à ce que, primo, qu'on érige un mur le long des frontières qui posent problème, et d'aider, qu'on délocalise tout le fatancien que nous avons peut-être à Kinshasa. Que font les nos fatancien qui sont à Kinshasa? Il faut aller sécuriser d'abord les frontières. La vie est humaine, est sacrée. Toutes ces morts, quand est-ce qu'on va les remplacer? Quand est-ce qu'ils auront réparation? Aujourd'hui, tout le monde est insécurisé. Aujourd'hui, tout le monde est insécurisé. S'il vous plaît, mes frères, s'il vous plaît. Quand vous dites qu'on ne responsabilise pas l'État, qui d'autre encore? Vous voulez que moi j'ai sécurisé la population congolaise? C'est l'État.
C'est l'État qui doit le faire. C'est une question essentiellement et principalement militaire.
Merci. Merci.
Ça ne sert à rien d'aller commander, ça ne sert à rien d'aller pleurnicher dans les capitales étrangères. Ici, prenons nos responsabilités, on peut aller plus loin de là où la guerre est venue. Mais où on tue la population, vous vous contentez de slogans du genre la diplomatie, quelle est la place de la diplomatie là où il y a la guerre?
Merci.
Il faut
Merci,
pour être entendu.
Merci Nico Faimbikai, on va revenir à vous, le débat reste ouvert, le temps de faire réagir Joël Kadé Ndanga. Joël Kadé Ndanga, vous qui êtes très optimiste hein, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi et éventuellement dans son projet, gardez-vous toujours la même confiance lorsque vous constatez que 2 ans après, il avait promis hein, parmi les priorités de combattre fortement l'insécurité à l'est du pays, mais on se rend compte que bientôt 2 ans, les mêmes pleurs continuent de se faire entendre du côté de l'est. On a beau envoyer plusieurs dizaines de mille de soldats à l'est, de changer des stratégies, des commandants. Tout à l'heure, Nico Faye demande qu'on y mette même tous nos fantassins disponibles dans ce coin. Est-ce que ce n'est pas un peu normal l'optimisme qu'on peut commencer à nourrir par rapport à la résolution de ce problème?
Oui, je crois lorsque mon ami écarte de la solution au problème de l'Est, la diplomatie, je ne sais pas avec quelle armée nous allons faire la guerre contre le Rwanda, contre l'Ouganda ou le Burundi, qui ont exporté leur guerre au lieu que la guerre se passe sur leur propre territoire. Ils ont exporté leur guerre dans l'Est de la RDC dans le but de créer, de procéder à la balkanisation de la République démocratique du Congo. La guerre, là, elle en fait, c'est depuis 1980 que les grandes puissances, les nations, les États-Unis notamment, l'Angleterre, donc les anglo-saxons qui ont soutenu le Rwanda. Qu'est-ce qu'était le Rwanda hier, en 1990? Qu'est-ce qu'était
Mais Joël Kadé, Joël Kadé Ndanga, juste pour que justement il y ait des relances dans ce débat, pourquoi tout de suite citez-vous des noms de pays alors que dans notre reportage et dans ce qui est relevé par rapport à ce nouveau feuilleton hein, de ce problème de l'insécurité à l'Est, il s'agit des ADEF. Voilà, un groupe rebelle apparemment indépendant qui n'a rien à voir avec les noms de pays qui sème l'insécurité là-bas.
Donc, je ne participe pas dans cette complicité internationale et locale qui désigne les ADEF comme ceux qui sont en train de tuer dans notre pays. On connaît ceux qui tuent. Et moi, je ne dirais jamais qu'il s'agit des ADEF. Parce que les ADEF, c'est un mouvement rebelle contre l'Ouganda. Quand est-ce que vous avez déjà entendu que les ADEF ont constitué une menace pour même une mouche ougandaise, pour même une gazelle ougandaise? Ça n'a jamais été le cas. Donc ça, ce sont ceux qui ont exporté leur guerre de chez eux, qui viennent tuer pour créer la terreur, pour que la population de Beni, dernièrement j'étais dans l'Est avant le confinement, vous allez voir combien de villages ont été ravagés, et tout ça, c'est pour que demain après-demain, comme aujourd'hui là, vous entendez la guerre au sujet de la gestion du recensement entre le ministère de la décentralisation et celui de l'intérieur et affaires coutumières, vous entendez cette guerre-là, ça fait partie de ce processus de la balkanisation qui avait commencé depuis 1990, lorsque les deux ministres peuvent se quereller autour du recensement pour sa gestion, pour sa tutelle. Vous comprenez que les raisons sont connues parce que le régime de Kabila, je l'avais dit, je pense, sur vos antennes, avait 4 objectifs. Premier, prendre poreuse les frontières orientales de la RDC. Deuxième, permettre à l'Ouganda, au Rwanda, d'exploiter les richesses qui sont sur le sol congolais en vue d'enrichir ces deux pays qui sont aujourd'hui des premiers producteurs, premiers exportateurs du coltan qu'ils n'exploitent pas dans leur pays. Aujourd'hui, ils exploitent le gaz méthane.
Alors, Joël Kadé Ndanga, vous gardez la parole, vous gardez la parole. Mais si le problème est identifié comme tel, pourquoi les officiels de la RDC ne déclarent pas ouvertement que le pays est agressé par l'extérieur en désignant exactement le procédé tel que vous venez de le dire et de faire connaître déjà au niveau des instances internationales, mais pendant qu'elle saisit les instances internationales, mobiliser l'armée et les ressources militaires nécessaires pour faire face justement à cette menace identifiée telle que vous venez de le dire.
Vous savez, après l'agression de la RDC en 1996, avec le label LAFDEL, l'ennemi, il a trouvé contre lui les nationalismes des Congolais, notamment celui de Ngandou qui se fait, de M. Laurent Désiré Kabila, plus tard, après qu'il se soit débarrassé de l'otage dans lequel il était pris, quand il s'est débarrassé. En 1998, ils sont rentrés sous le label RCD Goma. Et là, ils ont compris que il n'y a pas moyen de couper la RDC pour créer un état tampon entre le Rwanda et l'ex-Zaïre. Comme ils disent que ce sera à cette unique solution d'un état tampon qui aura la solution. Et vous avez compris maintenant qu'ils ont procédé par l'infiltration. Aujourd'hui, les Ougandais, les Rwandais sont dans nos services de sécurité. Ils sont dans l'armée, ils sont à l'ANER, ils sont à la DENIAP. Les moyens de les identifier, il n'y en a plus, étant donné que on a fait à dessein pour qu'il n'y ait jamais la carte d'identité dans notre pays, afin de permettre que c'est ceux qui ont infiltré notre armée, nos services de sécurité.
Merci. Merci.
Laissez-moi finir. Rendre le système immunitaire fragile de telle sorte à réussir ce plan. Donc, l'unique solution, non seulement qu'il faut clôturer, l'unique solution aujourd'hui, c'est que l'on puisse déclarer la guerre à ses agresseurs et qu'on ramène la guerre d'où elle est venue.
Merci. Joël Kadendanga, Joël Kadendanga, merci. Nous allons revenir à vous. Le débat reste ouvert. Hein. Ne vous sentez pas obligé de tout terminer d'un coup. Brunel Kati, journaliste à Yalisa Radio, émettant depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Vos deux prédécesseurs proposent déjà comme solution l'érection d'un mur le long des parties les plus poreuses de la RDC, notamment à l'est où il y a ces moments d'insécurité récurrents. Partagez-vous le même avis, partagez-vous la même analyse?
Voilà, je crois vraiment qu'avec toutes les solutions tendant à apporter une solution, disons, à apporter une quiétude pour nos compatriotes qui sont en détresse en ce moment, je n'ai pas qu'à me rallier. Alors, chers confrères, il n'y a pas plus longtemps, lors du régime Kabila, qualifiant ces mouvements insécuritaires de politiques. Mais jusqu'à quand devons-nous continuer à cautionner les manœuvres de certains esprits déterminés à tuer nos frères pour leur fin personnelle? C'est comme ça que moi je suis en train de me dire qu'actuellement, il est temps que nous puissions mettre sur pied, ou les gouvernements centraux puissent engager une politique sérieuse afin de pouvoir connaître les causes réelles. Parce que nous disons toujours que pour donner solution à un problème, il n'est pas question de s'attaquer aux causes, il n'est pas question de se fier aux conséquences plutôt, mais il est question d'attaquer les causes.
Brunel Kati, vos deux prédécesseurs ont pointé du doigt, et surtout Joël Kadendanga a estimé que ces vagues à répétition d'insécurité sont l'action de l'agression des pays étrangers. Vous qui êtes un peu dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo, voyez-vous les mêmes réalités? Avez-vous l'impression que, effectivement, les causes, puisque vous en parliez, les causes de cette insécurité sont une agression ou des agressions des pays étrangers, ou seulement l'action peut-être trop nocive des groupes armés sur place, même en RDC?
Voilà, chers confrères, c'est l'agression des pays qui nous entourent, de nos voisins. Mais ceci se passe en complicité avec nos propres compatriotes congolais. Et c'est de cette manière que je suis en train de me rallier à la sortie médiatique, je crois, de Madame Leïla Zerougui, c'était le mercredi dernier, qu'elle a fait réfléchir les autorités congolaises sur l'attitude des certains compatriotes qui s'adonnent à l'insurrection pour être appelés par les mêmes autorités et être promus. C'est de cette manière que nous sommes en train de dire qu'aujourd'hui, il est question de mettre sur pied une politique sérieuse et rigoureuse pour arriver à identifier toutes ces causes. Et une autre des choses également, je crois que une autre voie, la voie du dialogue, bien que les conséquences sont aussi humiliantes, mais au moins c'est la vie de nos compatriotes qui est en danger, de telle sorte que nous arrivons au point de dire même que ce qui fait la démocratie ou l'état de droit n'est pas seulement l'observance stricte de la règle du droit, mais aussi la conscience de l'élite congolaise. Aujourd'hui, nous devons nous dire que la voie pacifique, la voie du dialogue, va sauver nos compatriotes qui sont en détresse. Parce que quand nous disons que nous devons aujourd'hui encourager notre notre force armée ou disons demander une concentration aussi sérieuse de notre force armée pour arriver à contre-attaquer ces assaillants, je crois, oui, c'est un bon conseil, c'est une meilleure suggestion. Mais au moins, pensez-vous vraiment que notre force armée a tout de même la force et la capacité d'arriver à mettre fin le plus vite que possible à l'existence de ces miliciens? Je crois vraiment qu'il est encore temps que nous puissions mettre ensemble toutes les politiques, toutes les stratégies pour arriver à sauver les nôtres qui sont en danger.
Brunel Gatti, oui. Et c'est par cette question que nous allons clore ce premier débat de ce soir. Justement, il a été demandé de mobiliser plus de militaires à l'est du pays et même de la logistique à l'est du pays. Les meilleurs commandants ont été aussi appelés à région de l'est du pays. Tout ça a été fait. Et quelle autre stratégie pensez-vous qu'on va mettre en place, en plus de ce qui est déjà mis en place en ce moment, en plus de ce que je viens de rappeler, régime après régime, opération après opération, qui ont déjà été mises en place.
Nous pensons vraiment que les ministères ayant ceci dans leurs attributions doivent multiplier d'efforts, parce que nous nous rendons compte que ces ministères ne font presque rien, et même à l'intérieur du pays, vous vous rendez compte que même des bandits ordinaires, des petits voleurs perturbent la quiétude de la population, et la police ne fait rien. Et quand on appelle la police, il faut demander de l'argent et autres pour payer des carburants. Nous nous disons que l'État tend vers l'étonnement avec ce rythme, et nous devons nous mettre ensemble pour que nous puissions lutter et que nous puissions protéger les nôtres qui sont en danger.
Merci. Ça, au moins. Merci Brunel Kachi. La même question pour conclure, hein, pour vous deux, monsieur. Joël Kadendanga, beaucoup de stratégies ont été mises en place jusqu'ici pour essayer de résoudre les problèmes d'insécurité à l'est du pays. Quelle autre stratégie doit être mise en place pour trouver définitivement la solution?
D'un côté, négocier avec les sponsors, les promoteurs des trois pays agresseurs, ça veut dire les anglo-saxons, négocier avec eux, mener une diplomatie à leur niveau, mener la diplomatie avec Israël, qui a été utilisé à un moment comme si nos frères que nous n'avons pas abandonnés chez nous étaient d'origine juive. De deux, réformer notre armée de telle sorte à ramener la guerre d'où qu'elle est venue, et arrêter cette guerre, la ramener d'où est-ce qu'elle nous a été importée, que nous puissions l'exporter d'où est-ce qu'elle est venue.
Merci Joël Kadendanga. En quelques mots aussi, Nico Faye Mbikaï, quelle autre stratégie pensez-vous qu'on peut mettre en place aujourd'hui? Vous avez dit que c'est la faute de l'État, vous dites qu'il faut barricader, faire des murs le long des parties les plus faibles. Pensez-vous que tout cela suffit ou il y a encore d'autres éléments à ajouter pour que cette fois-là, l'insécurité soit résolue?
Non, non, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on vous dise comment? Nous ne disons pas que non, le fait d'ériger le mur le long des frontières pose un problème, que nous aurons la sécurité zéro. Mais néanmoins, ça va minimiser tant soit peu les incursions, et après, l'armée va faire son travail. Prenez par exemple, lorsque vous prenez la frontière entre Washington et Mexico, il y a un mur. Prenez la frontière entre Sofia et Ankara, il y a un mur. Entre Tel Aviv et Palestine, il y a un mur. Mais pourquoi? Vous savez, la guerre coûte cher. Connaissez-vous combien coûte un hélicoptère Apache? Un hélicoptère Apache coûte 17 millions de dollars. Mais avec votre budget de honte ici, comment vous pouvez vous procurer des hélicoptères?
Alors, sachant tout cela, quels sont les moyens à notre portée que nous devons utiliser pour
les moyens arriver? C'est à moi que vous demandez les moyens. Mais l'État est là pourquoi? L'État, c'est le premier patron dans un pays. Nous devons nous référer à l'État. Même sur le boulevard 30 juin, il y a l'insécurité. Les colonels font la loi sur le boulevard 30 juin. Merci. Tout ça, vous allez me dire que non, c'est toujours Washington, c'est toujours l'Israël qui font tout cela. Non, non, l'État ne doit pas justifier ses faiblesses.
Merci.
Nous devons le responsabiliser. Si ce n'est pas l'État, qui d'autre encore?
Merci Nico Faye Mbikaï. De ce point de vue, nous allons ouvrir notre deuxième thème avec un autre point de vue qui va certainement focaliser les avis. Martin Fayoulou et Théodore Rongoy, deux candidats malheureux à l'élection présidentielle de 2018, accusent le président de la République, Félix Tshisekedi, d'avoir violé la Constitution en nommant deux juges de la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation alors qu'ils exerçaient encore leur mandat. Ils estiment qu'il s'agit là d'une violation intentionnelle de la Constitution qui devrait pousser les deux chambres du Parlement réunies en congrès à accuser le président de la République de haute trahison. Écoutons ici Martin Fayoulou.
Nous disons ici, nous voulons construire un état de droit. Ce n'est pas un mot qu'on lance en vain. Il faut que les actes suivent. Monsieur Tshisekedi, il le sait, il n'est pas légitime. Non seulement il est illégitime, maintenant il pose des actes en violation intentionnelle de la Constitution. On ne peut pas laisser passer cet aspect des choses. Et c'est pour cela que je soutiens totalement l'action de Maître Théodore Ngoï. J'ai dit à la population, j'ai dit à tout le monde, Monsieur Tshisekedi court un risque énorme. Donc il doit être traité de haute trahison. Voilà ce que nous disons. Et on ne peut pas prendre à chaque fois pour les Congos des demi-mesures. On ne peut pas à chaque fois pour les Congos accepter des choses inacceptables. Ce n'est pas parce que ces juges-là m'ont causé du tort que je dois soutenir la violation intentionnelle de la Constitution. Non, nous sommes des hommes ici au Congo et des femmes qui sont des hommes et des femmes de principes et de valeurs. Le respect de la Constitution est sacré et M. Tshisekedi doit respecter la Constitution.
Un avis de Martin Fayoulou, nuancé énergiquement par le secrétaire général de l'UDPS qui considère, lui, cette position comme juste une tentative de plus de renverser l'ordre institutionnel en RDC. On écoute Augustin Kabuya.
Ces deux messieurs ont fait qu'exécuter les plans diaboliques déjà planifiés par l'FCC. Rappelez-vous, quand l'FCC voulait à tout prix se débarrasser de l'honorable, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Abound, ils avaient utilisé le député Jean-Jacques Mamba du MLC, une façon de se cacher derrière ces derniers. C'est le même schéma qu'ils ont utilisé cette fois-ci pour attaquer les chefs de l'État. C'est l'FCC qui est derrière. Mais M. Fayoulou doit comprendre une chose. Il avait monté un coup à Genève, ce coup-là n'avait pas réussi. Les plans de Dieu pour le Congo, actuellement, la solution s'appelle Félix Tshisekedi. Le chef de l'État n'a jamais violé la Constitution. Hier, Fayoulou a attaqué la Cour constitutionnelle qui sont au service de Joseph Kabila. À la grande surprise générale, c'est Fayoulou qui est devenu défenseur de ces mêmes juges-là.
Niko Fay Mbikaï, y a-t-il dans ce nouveau climat pas facile en République démocratique du Congo, y a-t-il dans ce nouveau chapitre matière à débattre ou selon vous c'est juste une nouvelle perte de temps?
Non, s'il vous plaît, estimé, lorsqu'on parle état de droit, l'état de droit ne se résume pas seulement au respect de l'article 220. L'état de droit aimerait aussi que le premier et le du premier au 229e article de notre Constitution soit respecté et de toutes les lois sectorielles de la République. Ici, lorsqu'on arrête pour arrêter, vous applaudissez. Ici, lorsqu'on ravit les propriétés des gens, même sans titre, vous applaudissez.
Mais Niko Fay Mbikaï, allons droit à notre préoccupation du soir. On n'a pas tout le temps pour nous évader. Y a-t-il selon vous matière à débattre sur la violation de la Constitution par le chef de l'État et ça une mise en accusation éventuelle ou la matière est déjà réglée, il n'y a rien du tout?
Non, chez nous, on dit Damei factum dabo tibius, c'est-à-dire, donnez-moi les faits, je te dirai les droits. Est-ce que y a-t-il eu nomination, y a-t-il eu permutation de juge de la Cour constitutionnelle ou pas? Nous disons, il y en a eu. Or, la Constitution dispose que le juge de la Cour constitutionnelle font un mandat de 9 ans. Mais au-delà de cela, mais il peut y avoir des changements après 3 ans.
Peut-on considérer que ce même problème, comme il s'est déjà posé dans un passé récent avec le régime passé, et qu'il n'y a rien eu, il n'y a eu aucune mise en accusation, peut-on considérer que cela est une jurisprudence qui fait que cette fois-ci, même si on se retrouve dans le même cas de figure, il n'y a pas à s'en plaindre?
Je vous interromps. Lorsque vous dites que non, il y a une jurisprudence, la jurisprudence n'émane pas de l'exécutif. La jurisprudence émane des juridictions judiciaires. Et en cette matière, il y a un principe en droit, en procédure pénale, qui dit du principe de l'habilité criminelle. Vous ne pouvez pas justifier un mal par un autre. Parce que l'autre a mal fait, moi aussi je dois aussi mal faire. A contrario, l'actuel régime du rassemblement était venu sur fond de bien faire, de respect de la Constitution. Est-ce que la question que nous devons nous poser, y a-t-il fait ou pas?
Ok, l'autre question, c'est le fait d'avoir nommé
un juge qui avait reçu un mandat.
Oui, Nico Faimbikaï, merci pour cet premier aspect. Le deuxième aspect de la question, c'est que si infraction il y a, cette infraction est-elle de l'ordre de la haute trahison et de la destitution du président de la République?
Tout à fait. C'est une matière purement pédagogique. Je m'en vais vous lire l'article 164 de notre...
Nico Faimbikaï, pouvez-vous être un peu clair dans vos réponses? On n'a pas tout le temps pour entrer dans les détails.
Dans les faits, on constate qu'il y a violation de la intentionnelle de la Constitution.
Cette violation est-elle de l'ordre à pouvoir destituer le président de la République? Parce que c'est ce qui est demandé.
Disons ceci. L'article 164 de la Constitution dit que lorsque le président de la République viole intentionnellement la Constitution, la conséquence est quoi? Doit être déférée devant la Cour constitutionnelle par le Parlement.
Merci Nico Faimbikaï. Joël Kadendanga, la même question. Est-on arrivé au stade où le président Félix Tshisekedi doit être exposé à une poursuite de haute trahison et éventuellement d'être destitué?
Laissez-moi présenter mes condoléances d'abord à la famille de Fortuna Chimbamuteba, que j'ai toujours appelé ma mère professionnelle, celui qui m'a appris à rédiger et à parler, que cela me repose en paix. Des fois, quand j'entends Martin Fayoulou parler ou Nico Faimbikaï, il m'arrive de croire dans leur incohérence, il m'arrive de croire qu'on a atteint peut-être un niveau de dépression beaucoup plus avancé. Comment est-ce qu'un président légalement élu va dire au président illégitime? Il va se battre devant les mêmes juges qui l'ont abattu, qui l'ont trahi, qu'il va se battre pour que ces juges-là soient rétablis dans leurs fonctions et que Thambwe Mwamba, le régime contre lequel il s'était engagé, Thambwe Mwamba remplace Félix Antoine Tshisekedi.
Oui, que Joël Kadendanga, ça peut être curieux, mais il a fait le choix. Il a estimé que continuer de réclamer les urnes est moins important qu'aujourd'hui de demander la destitution de Félix Tshisekedi pour cette faute-là.
Non, cher confrère, on ne juge pas les actes administratifs du président de la République. Aucune disposition légale constitutionnel ne permet au Parlement de se saisir, de discuter des actes posés par le président de la République dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
La Constitution prévoit bien que, en cas de violation intentionnelle, il soit quand même poursuivi,
non? S'il vous plaît, ici, il n'y a pas de violation intentionnelle de la Constitution, il y a un acte administratif. L'acte administratif, c'est l'ordonnance portant nomination de magistrats au niveau du Conseil supérieur de la magistrature qui a soumis les personnes, les noms au chef de l'État qui a signé et qui a eu les contrats du gouvernement. Nous nous rappelons dans ce pays, parce que vous l'avez dit à mon confrère, il n'a pas su s'en rappeler, il y a eu Luzolo Bambilesa qui a été nommé juge constitutionnel. Avant sa prestation de serment, il a été nommé conseil spécial chef de l'État en matière de bonne gouvernance, lutte contre la corruption et la fraude, le blanchiment des capitaux. Il y a eu le professeur Bundwawe qui a été nommé juge constitutionnel, qui a été nommé au niveau du Conseil d'État. Et toutes ces questions ici, et d'ailleurs quand on dit, non, le vice-premier ministre avait signé, Lubantambo avait signé à l'époque, en ce qui concerne ces juges. Donc c'est justement pour vous dire que les gens sont dans une dépression créée par la haine, la jalousie pour nuire au mandat du président. Mais je crois que, et d'ailleurs là vous voyez la confusion, là il va trop loin. Qui est l'initiateur de l'accusation du président de la République, qui doit demander les poursuites contre le président de la République? C'est le procureur général près la Cour constitutionnelle. C'est à lui qu'on vient de poser les dénonciations. C'est à lui qu'on vient de poser les plaintes. Alors, il lui appartient à lui de trouver l'opportunité pour demander au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat de mettre le président de la République en accusation.
Merci,
c'est
Joël Kadé.
Qui revient l'action. Ce n'est pas à Fayoulou qui est sous-traité aujourd'hui, ni à Théodore Ngoï, qui a abandonné. Il est avocat de Benoît Luamba. Il l'a abandonné. Maintenant, pour démontrer qu'il est vraiment sous-traité, qu'il est un mercenaire au service du PP, du FPC, il s'allie au haineux de Fayoulou pour monter un coup contre le président de la République, mais je crois que ça ne va pas réussir. C'est une sorte de dépression et de confusion terrible qui ne pourra avoir d'issue.
Merci, Joël Kadé Ndanga, tout en vous rappelant qu'il faut éviter d'être trop personnel dans les évaluations. Brunel Kachi, journaliste à Yalissa Radio, émettant depuis Kolwezi dans la province du Lualaba, pensez-vous que cet appel à la mise en accusation du président Félix Tshisekedi va être exécuté ou ça... Pour vous, c'est un feuilleton de plus.
Voilà, chers confrères, j'ai entendu les confrères Nico qui a essayé de nager dans ce qu'on appelle la cacophonie juridico-intellectuelle. C'est d'une manière intelligible qu'il a parlé, mais il n'y a rien du droit. Dois-je encore les rappeler ici les principes juridiques qui disent « ignorantia iuris non excusate ». L'ignorance de la loi ne constitue pas une excuse. Si bien il a choisi d'emprunter les chemins ou d'emboîter les pas de Martin Fayoulou et Théodore Ngoï, tous ces deux candidats malheureux et praticiens, ils ne peuvent en tout cas que continuer leur chemin de cette manière. Le Parlement n'a pas la compétence de destituer les chefs de l'État, ni moins encore le pouvoir d'initiative. Est-ce qu'il nous faut rappeler aujourd'hui les principes primaires du civisme, ou moins du droit? Ceux qui doutent n'ont à nous citer aujourd'hui un seul article de la Constitution, parce que je l'ai dit même dans ces dire ici que les parlements réunis en congrès va bien sûr poursuivre les chefs de l'État bien haut. Une chose, il est dit ceci. Je dois rappeler encore ici que la Constitution n'est pas le code pénal. Encore moins, les lois organiques. D'où, nul ne peut être puni pour ce qui n'a pas été prévu et sanctionné par la loi. Au moins, qu'il puisse me dire qu'il est en train de faire référence aux droits positifs, zambiens, ou soit que je ne sais pas moi, rendez. Alors, une de choses également, parce que les confrères venaient déjà de les dire, seule la justice peut déclarer l'inconstitutionnalité des ordonnances présidentielles et personne d'autre. Et la grande question que moi je suis en train de me poser aujourd'hui, mais pourquoi ces gens n'ont pas le courage de saisir les instances judiciaires? Parce qu'ils savent tout ça. Et si Théodore Ngoï est en train de se constituer une opposition, vous devez savoir qu'il est avocat, et lui-même s'est dit qu'il est avocat de ses juges. C'est-à-dire, c'est au nom de la défense qu'il est en train de parler. Donc, loin de nous, l'idée de pouvoir reprendre ceci dans l'objectivité ou soit dans la pertinence. Et si les personnes qui se sentent lésées n'arrivent pas à saisir la justice pour annuler ces ordonnances, c'est juste parce qu'elles savent très bien qu'elles ne sont pas illégales. Eh bien, elles savent très bien que ces ordonnances ne seront jamais déclarées illégales, car elles sont déjà exécutées par les mêmes magistrats.
Nous sommes déjà en train de conclure cette émission, cher Brunel Kachi. Que peut-on, en guise de conclusion, retenir, soit de notre dernier sujet, soit de nos deux thèmes de ce soir?
Voilà, chers confrères, pour finir ici, je vais encore énerver davantage Nico, qui semble prendre position, qu'il puisse mettre en tête que, bien dans 5 mois, Félix Tshisekedi va être nommé président de l'Union africaine. Et presque dans un mois, le président de la République va organiser la prestation des serments des 3 juges constitutionnels qu'il a nommés. Et donc, ils ont encore tout le temps aujourd'hui de pouvoir multiplier les efforts pour arriver à pouvoir obstacler cette initiative. Ou sinon, s'ils pensent réellement que Tshisekedi va tomber facilement, ils peuvent faire deuil de cette illusion. Le mal, c'est que l'on n'arrive pas à comprendre que dans un état de droit également, et dans un état où règne la démocratie n'est pas seulement le pouvoir du peuple pour les peuples, c'est ce que nous connaissons, c'est aussi les leaderships politiques par un seul.
Merci Brunel Kachi. En deux mots, tout simplement, Joël Kadé Ndanga, quelle est la conclusion à retenir ce soir?
Si Martin Fayoulou et Théodore Ngoï étaient cohérents et lucides envers eux-mêmes, ils auraient attaqué la décision du chef de l'État qui est un acte administratif par devant le Conseil d'État. C'est lorsque le Conseil d'État aurait déclaré que ces ordonnances ont été mal rendues que maintenant ils peuvent saisir le procureur général près de la Cour constitutionnelle.
Merci.
Pour établir la culpabilité du président de la République.
Merci.
En vue d'être poursuivi au Parlement et non les barbillages que je suis en train d'entendre.
Merci.
Les incohérences dans la considération des uns et des autres.
Merci Joël Kadé Ndanga. Votre dernier mot, Nico Faïmbikaï.
Non, c'est malheureux lorsqu'on dit que non, il n'y a pas eu, le président doit être jugé sur la base du code pénal. Mais je renvoie l'ami à l'article 165 de la Constitution. On parle de la violation intentionnelle de la Constitution. On ne dit pas violation intentionnelle de la loi pénale. On dit violation intentionnelle de la Constitution. C'est ça le vrai droit.
Merci Nikofa Mbikai, à vous trois messieurs. Patrick Kiasongwa, Kéline Koutegui Maté et Axel Gontio m'ont aidé à préparer cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Tribune de presse, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.